5 ans et demi après la disparition de son épouse Delphine, il a donc conduit les enquêteurs là où il avait dissimulé le corps, enterré le corps à une dizaine de kilomètres de son domicile familial dans le Tarn. Il l'a enterré dans un champ la nuit. Une centaine de gendarmes mobilisés pour des fouilles qui se poursuivent en ce moment même. On a déjà réussi à récupérer une partie du corps de la jeune femme. L'identification des ossements retrouvés est en cours. On a donc, nous dit-on, un Cédric Jubilard très coopératif, qui parle, qui explique. Son avocat nous raconte que Cédric Jubilard a évoqué devant la justice l'élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, il a été inondé, submergé par une émotion qui l'a dépassé, extrêmement forte, et qui a provoqué un passage à l'acte irréfléchi. Son client fait part de regrets importants qu'il n'a pas réussi à exprimer pendant des années, mais qu'il exprime aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Donc, on avait un Jubilard qui se disait innocent, qui niait, qui avait même construit un alibi puisqu'il a, il s'était fait passer pour le mari éploré qui recherche sa femme. Maintenant, on a un Jubilard qui reconnaît qu'il a mal agi, mais que visiblement, on comprend que c'est une dispute, selon lui, qui a mal tourné, qui ne voulait pas donner la mort à son épouse. Alors, on verra si ça tient lors d'un second procès qui est toujours prévu en septembre et qui sera peut-être reporté. Mais, mes chères grandes gueules, et je me tourne vers toi, Sandrine, c'est uniquement de la stratégie cynique ou est-ce qu'on peut croire à la sincérité de ce revirement ?
Moi, je pense que ce revirement est tout sauf anodin. Parce que maintenant, on a un monsieur Jubilard qui n'essaie plus de convaincre qu'il est innocent, il essaie de convaincre qu'il est moins coupable. Parce que rappelez-vous, donc, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre en automne dernier, meurtre par conjoint. Et là, finalement, il revient sur ses déclarations, il fait des aveux et il essaie de montrer que ce sont des violences qui ont été commises sur son épouse, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et c'est là, en fait, où est toute la différence. Parce qu'à partir du moment où ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la qualification pénale est différente. Donc, les enjeux pénaux, forcément,
C'est plus 30 ans, mais c'est
plus 30 ans, mais c'est 15 ans.
C'est 15 ans, c'est la moitié.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce revirement, pour moi, il est pas, je veux dire, il est pas anodin.
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est
une manipulation, une stratégie de défense. En tout cas, elle est cohérente.
Il va falloir qu'il soit convaincant. C'est-à-dire qu'il est pas anodin. Il est un peu spectaculaire. Est-ce qu'il peut convaincre un jury populaire que tout d'un coup, il a pris conscience qu'il fallait qu'il raconte la vérité pour ses enfants, soulager sa conscience?
Déjà, première chose, les aveux ne font pas en sorte qu'il y ait une nouvelle qualification pénale, parce qu'il faut que ce soit corroboré avec d'autres éléments. Il ne faut quand même pas oublier que lui, pendant des semaines et des semaines avant la disparition de son épouse, il avait déjà proféré des menaces envers son épouse. Il avait également dit à sa mère qu'il voulait l'enterrer, qu'il allait tout faire pour la faire disparaître. Donc, le fait que ce soit prémédité, peut-être qu'il ait déjà fait des repérages avec le lieu, parce que c'est à 15 km de chez lui. Le fait que, mine de rien, il soit parti de chez lui pendant à peu près 6 heures, laissant ses deux enfants, dont un bébé de 18 mois, seul au domicile, pendant qu'il allait transporter le corps et procéder à l'enfouissement dans la forêt. Donc, tout ça ne va pas forcément aller pour lui, pour dire que c'était une dispute qui a dégénéré, et qu'ensuite de quoi, il a voulu cacher le corps pour ses enfants.
Abel Boyi.
Pour moi, ce Jubilard est un pervers narcissique. C'est le schéma que l'on retrouve dans tous les féminicides. C'est-à-dire que quand on voit la situation, il semble que Delphine voulait refaire sa vie avec un autre homme. Mmh. En tant que pervers narcissique, le jeu J-E-U est dicté par le jeu J-E, donc tout doit passer par lui. Donc Delphine Jubilard ne pouvait pas refaire sa vie en dehors du périmètre que lui avait décidé, c'est-à-dire sa présence. Ensuite, il l'a tué, il s'en est vanté quand même auprès de deux co-détenus. Il s'en est vanté auprès d'une femme avec qui il a eu aussi une relation intime. Exactement.
Jennifer, qui était donc l'ex-compagne de Cédric Jubilard, qu'il a rencontré après en prison, qui racontait notamment à BFM TV il y a un an, qu'il lui avait avoué avoir tué Delphine, et il avait même confié avoir enterré le corps dans un champ. En fait, il avait tout raconté
déjà. Il avait
déjà
tout dit. Et même cette Jennifer, elle avait été l'objet de quelques moqueries, en fait, parce que certains l'avaient accusée à demi-mot de vouloir prendre la lumière. Et aujourd'hui, c'est toujours le jeu qui prédomine, parce que c'est lui qui, au final, révèle les choses. Et il a pu dire, que ce soit son avocat ou autre, ben vous voyez, j'ai dit la vérité, ils ont vraiment trouvé les os.
Sauf qu'il l'a dit cinq ans et demi après, quoi.
Oui, mais c'est toujours le pervers narcissique, c'est-à-dire que lui, dans son esprit, c'est-à-dire, il pense dicter le rythme. Je dis bien il pense parce qu'il se fourvoie dans une illusion pas possible. Mais il pense donner le rythme et il pense être le maître de son jeu d'échecs. Or, ce type, il est perdu et j'espère que la justice ne reviendra pas sur sa position initiale parce que c'est dramatique ce qui se passe et c'est un féminicide de plus commis par un pervers narcissique de plus qui refuse qu'une femme puisse faire sa vie
donc
en dehors de lui.
Toi, tu dis
qu'il
faudrait pas accorder les circonstances atténuantes pour ce féminicide.
Ben non, mais parce que c'est un peu gros. En plus, le timing est un peu gros et quelqu'un qui se vante comme ça depuis un certain temps, sans compter en plus qu'un moment aussi les médias ont pu dire qu'il avait un certain succès auprès des femmes aussi, cette fascination pour les tueurs, pour les détenus. Donc il y a tout qui nourrit en fait le réservoir du pervers narcissique. Donc non, il faut pas revenir sur la décision initiale.
Emmanuel De Villiers.
Beaucoup de choses viennent d'être dites avec clarté. C'est une histoire sordide. Moi, je trouve qu'on lui fait trop de publicité
à ce
sinistre individu qui rejoint la cohorte des grands menteurs criminels, puisque interrogé en direct, même à la télévision, il a été capable de nier. On peut citer un homologue, la personne de Monsieur Daval, Daval.
Oui.
Je trouve qu'il faut
qui en pleurait,
limiter l'exégèse de tous ces cas épouvantables avec les questions de savoir ce qui va rester de la dépouille mortelle, etc. Car je pense qu'on peut donner des idées à d'autres détraqués, presque pour un retour d'expérience, pour faire encore mieux. Et tout ça, c'est le monde de l'horreur, un monde diabolique, car il vaut mieux se séparer avec perte et fracas que d'assassiner son conjoint.
Oui, mais ce qui est incroyable et effarant, c'est que ses premiers avocats, il a changé d'avocat, ses premiers avocats étaient sincèrement convaincus de son innocence. Je réécoutais ce matin une interview de Maître Martin qui expliquait que, bon, parfois elle a eu des clients qui disaient « je suis innocent », mais elle savait bien que c'était pas innocent, elle n'était pas dupe, et là, elle était persuadée qu'il était innocent, elle en appelait même à son intuition féminine, etc. C'est fou, parce que finalement, qui pouvait penser que Cédric Jubilard était innocent? Enfin, à part peut-être ses avocats, il y avait quand même beaucoup de choses qui laissaient à penser effectivement qu'on était dans un filmicide, j'ai envie de dire assez classique. C'est-à-dire que l'homme ne supportant pas que sa femme va le quitter, ce soir-là, sans doute, elle lui a dit, écoute, c'est terminé, je m'en vais. En plus, c'est quand même quelqu'un, excusez-moi, mais c'est un peu un cas sociaux. C'est-à-dire qu'il travaille pas, il vit aux dépens de sa femme. Donc, en fait, si elle part, il va tout perdre. Il va perdre sa maison, il va perdre ses revenus puisqu'il utilisait son argent aussi pour acheter sa drogue. Donc, en fait, on a, voilà. Tout ça est assez classique.
Non,
c'est étonnant que tout d'un coup, ses avocats aient pu penser que...
Sandrine ne va pas être d'accord, mais si notre monde était un peu plus efficace d'un point de vue judiciaire, il y a des moyens de faire avouer des ordures comme ça.
Bah, tu veux faire comment?
Il y a des moyens, je pense qu'au 19e siècle, on en serait très rapidement, on aurait eu la vérité.
Voilà. Tu prends une pince, t'arraches les dents.
Ouais, voilà.
La torture, c'est interdit, Emmanuel.
Oui, mais il y a des moyens d'interrogatoire pour quand même avoir la vérité, sans protéger ces crapules.
Oui, mais il y a des aveux, tu vois, dans le passé, qui ont été... estorqué, entre guillemets, sous le
Patrick
coup de la pression et la violence.
Voilà. Toujours prêcher l'exception.
Oui, mais ça crée
on ne fait pas une politique avec des exceptions, avec de la sensiblerie.
Oui, mais c'est grave, parce que l'erreur judiciaire, c'est quand même quelqu'un qui va faire de la prison alors qu'il est innocent.
Et avant, quelqu'un qui aurait pu être guillotiné, et puis finalement, son innocence.
On évite 1000 crimes.
Mais quand tu parlais de la naïveté de l'avocat, enfin, la naïveté, mais.
Non, mais c'est vrai que parfois, on est embarqué, nous.
Oui, mais en fait, un avocat est un être humain aussi, avec des émotions. Donc, il y a un rapport, tu le sais mieux que nous, il y a un rapport des fois que l'avocat ou l'avocate peut avoir avec le client, un rapport des fois de l'ordre de l'émotion, en fait.
Il y a même des avocats qui se marient avec leur client.
Pourquoi on n'a pas passé au détecteur de mensonges?
Mais Emmanuel, ça n'existe plus, ça.
On n'est pas dans les experts Miami, donc
pourquoi pas.
Et aussi...
Mais t'en as qui sont tellement fins manipulateurs, que finalement, ils peuvent aussi déjouer le système.
Pour finir mon propos, tu as des avocats qui sont beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'empathie et qui croient peut-être un peu trop dans le fait d'accorder une seconde chance. Et puis, tu as aussi des avocats véreux aussi, le côté il y a une affaire médiatique, je vais avoir raison contre tout le monde, tu as de tout.
Là, elle avait l'air sincèrement convaincue qu'il était innocent.
Elle avait ce côté émotionnel.
Tout semblait croire, tout laissait à penser qu'il était avec des témoignages en plus des gens avec qui c'était.
Mettez-vous un tout petit peu à notre place. Moi, à un moment donné, j'ai défendu un homme qui avait décapité sa femme. On n'avait pas retrouvé la tête, d'ailleurs, on n'a jamais retrouvé la tête. Il est mort en prison sans indiquer où était la tête. Il lui avait aussi enlevé le cœur, le poumon gauche, il lui avait coupé les mains. Et il disait que ce n'était pas lui.
Tu n'avais jamais douté, j'espère.
Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Donc, il lui disait que ce n'était pas lui, que c'était la mafia du tango argentin, que vous connaissez tous, bien évidemment, très revendicative, parce que les deux étaient professeurs de tango. Et il n'a jamais voulu reconnaître le meurtre de son épouse. Et nous, en tant qu'avocat, t'es là, t'es obligé un peu d'épouser la ligne de défense de ton client, parce que si toi tu viens à la barre et dire que finalement tu plaides pour sa culpabilité quelque part comme ça, alors que lui plaide son innocence, t'as un mandat, donc t'es obligé de d'épouser. En revanche, tu peux faire le nécessaire pour qu'il puisse retrouver la raison par rapport aux éléments objectifs du dossier qui sont présents pour asseoir sa culpabilité. Et ce qui était le cas, on lui disait, écoutez, c'est quand même pas possible, il y a du sang partout dans votre garage, vous l'avez nettoyé à l'eau de Javel, donc à un moment donné, bon, va peut-être falloir revenir à de plus juste raisonnement. Et finalement, non, il était enferré là-dedans et c'était compliqué. Et donc l'avocat, à un moment donné, va quand même dire, bon, voilà, tu plaides pour dire ce que ton client pense. Et après, s'il y a des éléments objectifs qui viennent te contredire, c'est compliqué aussi pour nous.
Mais là, la défense qu'il est en train de mettre en place, à savoir la dispute qui a mal tourné. Mm-hmm. Bon, après, si on s'aperçoit qu'elle a été étranglée, ça va être compliqué d'expliquer qu'il ne voulait pas la tuer. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Mais cette défense, il aurait pu l'utiliser en première instance. Et peut-être qu'il n'aurait pas pris 30 ans. Mm-hmm. Peut-être que ça aurait fonctionné. S'il avait d'ailleurs assez vite coopéré en disant oui, j'ai fait une énorme bêtise, je vais vous dire où je l'ai enterré.
Oui, mais c'est
effectivement,
un menteur.
J'ai paniqué, donc j'ai déplacé le corps, je voulais pas que mes enfants tombent dessus, etc. Mmh. Tout ça pouvait être entendable en première instance. Maintenant, en appel, 5 ans et demi après, bon courage aux avocats pour faire avaler cette nouvelle version.
Alors, je préfère la position de ces avocats-là aujourd'hui parce que justement, ils coopèrent, ils participent à la manifestation de la vérité.
C'est pas trop,
il a fait
c'est
le nécessaire.
Trop tard,
oui, mais je veux dire, en tout cas, si à un moment donné j'avais été ces avocats, si j'avais dû choisir, en première instance ou en appel, je préférerais la position de ceux qui sont en appel.
Puisque... Sauf que les premiers avocats étaient persuadés qu'il était innocent, alors bon.
Ouais, mais même au-delà de ça, un féminicide, c'est un féminicide, c'est encore un bâtard qui a tué une femme. Et il faut penser qu'un féminicide en France tous les 2 à 3 jours, toutes les femmes aussi qui sont maltraitées aussi. Donc, au bout d'un moment, faut penser aussi aux victimes, faut penser aussi aux femmes qui suivent cette affaire.
Faut penser aux enfants.
Ben, justement, l'argument, il coopère pour ses enfants, mais faut imaginer ce que ses enfants doivent ressentir. Mais c'est comme si votre père vous met un deuxième coup de poignard.
Alors, faut préciser quand même que Louis, le fils aîné, hein, qui avait 6 ans au moment des faits, d'ailleurs, qui avait témoigné qu'il avait entendu ce soir-là ses parents se disputaient. Il a, via son avocate, fait savoir à son père qu'il lui demandait de dire précisément ce qu'il avait fait. Donc ça peut être joué aussi, ça peut être joué. Il n'a plus du tout de contact avec ses enfants. Et donc peut-être que ça aussi, ça a quand même joué dans l'idée qu'il fallait enfin qu'il dise la vérité.
Oui. Non, mais n'en déplaise à notre cher maître Pégan.
Ah, mais tu vas me laisser tranquille aujourd'hui, toi.
Il est indéfendable, car chaque jour, il y a un matin, on se réveille après une nuit qui, selon la vieille maxime, porte conseil. Il y a eu 1600 matins depuis 5 ans et plus.
Oui, mais...
C'est inadmissible, c'est intolérable, indéfendable de ne pas s'être avisé et d'avoir dit « je passe à table, je dis la vérité ».
Mais les avocats leur disent qu'en fait, ils s'étaient enfermés dans ce mensonge et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir.
Bon, c'est dépassé, tu sais, le psyché, c'est tellement compliqué. Même nous, quand on est face à des clients comme ça, où on voit des choses, on se dit « mais parce qu'on n'a pas le même raisonnement qu'eux ». Donc pour nous, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est inconcevable même. Mais pour eux, ils se sont enferrés dans une situation, ils ont été dépassés par les événements, il a commencé à nier. Et puis du coup après il est resté dans ses délégations. Mais bien sûr c'est pas une preuve d'intelligence, mais au contraire c'est parce que j'imagine qu'il a quelques petits troubles aussi. Et là la question est de savoir s'il avait l'intention de la tuer. C'est un féminicide pour toi. Maintenant lui il est en train de dire que c'était des violences qui ont entraîné la mort, mais il avait aucunement l'intention de la tuer.
On peut penser qu'en fait il a tenté le coup
quand même
en niant. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et là, il se dit, de toute manière, j'ai pris 30 ans, il faut que je raconte autre chose et que là, maintenant, je vais jouer le tueur repenti.
La stratégie de défense, elle est cohérente, c'est sûr.
La repentance.
Comment, sauf à avoir plus qu'une mauvaise mentalité, une nature effroyable, on peut encore avoir envie de vivre après avoir menti, après avoir trompé tout le monde, après avoir assassiné son épouse au bout de 5 ans? Comment on peut encore avoir une stratégie?
Parce que les pervers narcissiques, on va dire à Belle, c'est pas des suicidaires.
Oui, ils sont comme ça. Lui, tu sais, tu parlais de la médiatisation. Lui, il est content. Mais c'est un schéma classique. Et en plus, on est dans l'actualité. On parle beaucoup des violences faites aux femmes et aux enfants. Moi, je suis comme toi. Moi, j'ai pas de pitié pour des gens comme ça. Je cherche pas à savoir si quand il était petit, son père l'a emmené dans la forêt. Est-ce que c'est un traumatisme et tout. Vous cherchez beaucoup à savoir ça dans le cadre de la défense.
Oui, parce qu'il faut expliquer.
Pour pouvoir expliquer. Mais non, il y a une femme qui est morte. Il y a une femme qui est morte lâchement.
L'entourage. l'entourage a besoin de comprendre. La preuve en est, c'est que le fils écrit à son papa pour que.
Oui,
dis-nous comment ça s'est passé.
Ouais, mais il veut retrouver le corps de sa maman pour pouvoir faire le deuil. C'est important.
Là, il a demandé comment ça s'est passé. Parce que tu as besoin de comprendre pour pouvoir faire ton deuil, pour pouvoir passer à autre chose, même si c'est compliqué.
Comprendre pour savoir la vérité et pas comprendre pour trouver des circonstances atténuantes. C'est deux choses différentes. Et je pense pas que ces enfants veulent excuser leur père par rapport à ça.
Non.
Leur père a tué leur mère. Ils ont besoin de savoir la vérité pour pouvoir aller de l'avant, sachant qu'ils ont pris perpète maintenant.
Oui. Et comment vous réagissez? Appelez-nous au 32-16. On va continuer d'en parler. On sera avec Mourad Batik, qui est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Donc, il donnera aussi, lui, son sentiment. Maître Batik, qui sera avec nous dans un instant. Et vous, bien sûr, au 32-16, on attend vos réactions après ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story à 9h24 avec autour de la table Abel Bouilly, l'éducateur, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, et puis Sandrine Pégan, l'avocate. On évoque l'affaire Jubilard, puisque vous le savez, Cédric Jubilard a indiqué précisément le lieu où il avait enterré le corps de sa femme qui l'a tué. Cédric Jubilard qui coopère. Alors, est-ce sincère ou totalement opportuniste? C'est la question qu'on se pose. Mourad Batik est avec nous. C'est l'avocat d'une partie de la famille de Delphine Jubilard, de l'oncle et de la tante. Bonsoir, maître. Enfin, bonsoir. Bonjour, maître. À 9h24, c'est bonjour. Je sais plus où il habite.
Oui. Les vacances.
Maître, est-ce que vous croyez à la sincérité du nouveau Jubilard, si j'ose dire?
Non, je ne crois pas à la sincérité de Cédric Jubilard. Je n'y crois pas aujourd'hui, je n'y croyais pas hier et je n'y croirai pas demain. Je pense que Cédric Jubilard est un stratège. C'est un ancien joueur de poker qui ne fait que mettre en place des stratégies pour sa propre personne. Et par conséquent, aujourd'hui, il sait qu'il a pris 30 ans de réclusion criminelle en première instance à la suite de mensonges absurdes allant jusqu'à expliquer que Delphine avait disparu parce qu'elle était devenue témoin de Jéhovah ou parce qu'elle était convertie à l'islam et peut-être un départ en Syrie. Et donc, il a vu que sa première stratégie ne fonctionnait pas. Il est maintenant dans une nouvelle stratégie qui n'a que pour objectif de réduire sa peine et personne n'en est dupe, évidemment.
Comment ont réagi les personnes, les proches, la famille de Delphine Jubilard que vous défendez ?
Avec un sentiment contrarié, évidemment, une forme de soulagement parce qu'ils vont pouvoir se rendre sur une sépulture digne de ce nom, pleurer Delphine, parler à Delphine et procéder à une phase de deuil qui leur a été confisquée pendant maintenant presque 6 ans. Et un sentiment de colère immense, un sentiment qui est évidemment viscéral, puisque Cédric Jubilard a confisqué ce corps, a enterré ce corps, a menti à de nombreuses reprises. Et donc, vous voyez, dans le droit de la guerre, il est interdit de confisquer le corps de l'ennemi qui est mort. Et donc là, on a été au-delà du droit de la guerre, puisqu'il y a une confiscation pendant presque 6 années du corps. Et donc, c'est extrêmement pénible et douloureux, cette forme de torture très longue, presque 6 années avant de pouvoir retrouver le corps. Et quand on dit retrouver le corps, vous avez bien compris, au regard de ce qui transparaît dans la presse, qu'on ne parle pas de corps, on parle de deux os, en l'espèce deux fémurs. Et donc, finalement, on doit se contenter aujourd'hui par la réaction et par la volonté funeste de Cédric Jubilard, on va se contenter aujourd'hui de deux fémurs.
L'un de ses avocats explique que Cédric Jubilard fait aujourd'hui part de regrets importants qu'il n'a pas réussi à exprimer pendant des années et qu'il exprime aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que c'est un homme qui a pris conscience, qui s'est enfermé dans un mensonge, certes ça n'a pas fonctionné, et qu'aujourd'hui peut-être parce que pour ses enfants, pour tout le monde, il doit la vérité, et même pour lui aussi, pour peut-être soulager sa conscience, comme on dit?
Oui, j'ai entendu mon confrère parler sur votre chaîne de moments de réconciliation et de moments historiques. Alors, il n'y a pas de moment historique, hein, on n'est pas sur un événement qui serait de cet ordre-là. Et évidemment, la réconciliation, on s'inscrit parfaitement en faux sur cette notion. Il n'y a aucune réconciliation de près ou de loin avec Cédric Jubilard. Et encore une fois, je crois que Cédric Jubilard ne pense qu'à lui. C'est une énième mise en scène. On ne parlait plus de lui. Il a besoin que l'on parle de lui. Il a besoin d'être au centre de l'attention. Il a besoin d'être au centre de tout. Et il a besoin d'être au centre de sa propre stratégie. Maintenant, sur ses intentions, je n'ai pas la faculté de sonder les reins et les cœurs. Mais au regard du dossier, au regard de ce qui transparaît du dossier, pour avoir pratiqué Cédric Jubilard pendant tout le procès de première instance, je ne crois que très peu en la sincérité de ce monsieur.
Est-ce que le procès pourra vraiment se tenir, le procès en appel, au mois de septembre avec tous ces nouveaux éléments ?
Et c'est là où on en revient à la stratégie, aux différentes stratégies de Cédric Jubilard. Pourquoi est-ce qu'il choisit l'été juste avant l'audience devant la cour d'appel pour faire ses révélations ? Est-ce que, et j'ai peut-être un esprit tordu, mais est-ce que ça n'est pas pour prolonger le dossier et rendre impossible la tenue du dossier au mois de septembre, et par conséquent faire en sorte, pourquoi pas, d'imaginer une remise en liberté ? J'en sais rien, mais en tout cas, je crois que la question reste parfaitement ouverte quand on parle de Cédric Jubilard.
Mais on sait aussi que son fils Louis avait demandé à son avocat de faire passer un message à Cédric Jubilard, parce qu'il n'y a pas de contact direct entre les enfants et leur père, mais pour lui demander en gros de d'avouer quoi, de dire précisément où se trouvait sa mère. Est-ce que ça n'a pas non plus aidé quand même à aller vers ce revirement?
Si vous voulez, je n'ai pas envie de surcharger la mule plus encore, mais les opportunités qu'avait Cédric Jubilard d'expliquer les faits, de se libérer et d'expliquer où est la dépouille de sa compagne, il n'a pas fallu attendre le courrier de Louis. Il a eu la possibilité, dès lors que les gendarmes sont arrivés chez lui quelques heures après le meurtre de sa compagne, et puis après on a eu tout le temps de l'enquête. N'oubliez pas que Cédric Jubilard a été constitué partie civile pendant 6 mois. C'est quand même un élément extrêmement important, parce qu'on vient vous expliquer aujourd'hui qu'il était contraint moralement, physiquement, psychologiquement, que c'était très dur, qu'il y avait les médias, qu'il y avait les enquêteurs, qu'il y avait les magistrats, que tout le monde était sur lui, et que finalement ça l'a empêché de parler pendant 6 mois. Et ça vous rappelle nécessairement un autre dossier qui a défrayé la chronique, je parle du dossier d'Aval. Pendant 6 mois, Cédric Jubilard est victime dans le dossier. Oui, oui. Il est constitué partie civile, il est en liberté. Donc vous voyez, il n'y a aucune pression extérieure sur Cédric Jubilard qui empêche Cédric Jubilard d'expliquer où sa femme est en train de pourrir à l'extérieur. Et il ne le fait pas.
Vous avez le début de votre plaidoirie.
Emmanuel Lévillier.
Le Jubilard nouveau est arrivé, comme le Beaujolais.
Mais si vous y croyez pas. Bon, merci Mourad Batik, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard. Merci maître. Jérôme est avec nous également au 32-16. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Jérôme
bonjour.
Nous appelle bonjour, du Jérôme. Morbihan en Bretagne. Vous suivez cette affaire également, quel est votre sentiment ?
Alors moi je suis un passionné entre guillemets de tout ce qui est affaire judiciaire, j'en suis beaucoup à la télé, enfin qu'elle soit française ou même étrangère. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que Jérôme Jubilard était pas loin du crime parfait. Donc en fait, la carte qu'il avait à jouer, c'était le bénéfice du doute, quoi. Donc tant qu'il a pu se raccrocher à ça en se disant il y a pas de corps, il y a pas de preuve, et que sur un coup de poker au procès, parce qu'il aura l'avocat va peut-être me démentir, mais il aura presque pu sortir sans preuve, sans pratiquement rien. Contre lui, il aurait presque pu, au bénéfice du doute, ressortir
de prison. C'est ce qu'il espérait, oui.
Voilà. Donc aujourd'hui...
Je ne vous contredis pas, Jérôme.
Bon, merci. Ça veut dire que j'écoute bien ce que... Maintenant, aujourd'hui, dire qu'il fait ça pour les enfants, pour sa famille, à mon avis, c'est qu'il continue. Et je pense que c'est un mec qui est assez intelligent, même si c'est une ordure, c'est un mec qui est assez intelligent. Il s'est tenu à son premier truc, c'était... tant qu'ils ne savent pas où est le corps, tant qu'ils n'ont pas de preuves, j'ai une chance de sortir. Aujourd'hui, j'ai pris 30 ans. La seule chose qui me reste à jouer, c'est de faire réduire ma peine, de faire mon malheureux et de faire croire que je fais pour mes enfants, pour la famille de Delphine et tout et ça. Mais je pense qu'à sa pomme, quoi. C'est que c'est juste pour lui. Enfin, je pense que de toute façon, ses enfants, quand on a tué la mère de ses enfants, je ne pense pas qu'il reste assez d'humanité pour dire.
Jérôme. Vous dites qu'il est intelligent, pour un type intelligent, il est quand même dans une sacrée merde.
Oui, mais le pervers narcissique, il y a
une forme d'intelligence.
Voilà. Oui, c'est malin. Attendez, Moi, pour, je vous dis, pour suivre quelques beaucoup de documentaires sur les crimes, il y a des meurtriers intelligents, enfin qui sont intelligents ou malins ou qui font les choses bien. C'est horrible à dire. Hein, je suis désolé, mais au premier procès, il aurait pu, ben, je vous dis, vous allez peut-être me contredire encore une fois, mais il aurait presque pu ressortir, quoi, si sans preuve, sans corps, sans rien, il aurait pu ressortir. Moi, j'avais ce doute-là.
Oui, mais il y avait quand même des éléments objectifs dans le dossier qui laissaient paraître que, justement, il était impliqué.
Il existe toujours, quoi. Il y a toujours cette histoire-là où le doute bénéficie.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose pour le défendre. Et puis lui-même n'apparaissait pas de très sympathique. Mmh. Il a pas dégagé beaucoup d'empathie. Alors là, visiblement, il change de visage. Les avocats sont en train de construire un nouveau personnage qui aurait des regrets, voudrait.
Bah oui,
Truchot et laxiste.
Oui, mais pour corroborer ce que dit Jérôme, le pervers narcissique, en fait, dans sa réalité illusoire, a toujours l'impression de dicter le rythme des événements, en fait.
Oui, voilà.
Et son intelligence fourbe, justement, la définition de l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité continuelle de s'adapter aux situations. Voilà. Le pervers narcissique, il a cette fourberie de vouloir s'adapter en pensant avoir le rythme. C'est un jusqu'au boutiste,
quand tu dis pervers narcissique, bon, tout ça, c'est sympathique, mais intelligent, etc. Enfin, on regarde son parcours et autres.
Non, mais c'est un cachot, évidemment. Mais le pervers narcissique, il est dans une réalité illusoire.
Oui, oui.
Pourquoi est-ce qu'il tue sa femme? Parce que sa femme n'a pas le droit de vivre.
C'est pas Einstein non plus du crime.
Oui, mais quand on dit intelligence, on va changer le mot malice si tu veux, ou fourberie, peut changer ce mot. Mais
perversité.
Voilà, il est pervers, d'accord. Donc,
le mec est pervers. Excusez-moi, je vais
vous expliquer
mon raisonnement. Quand vous voyez l'histoire que tout à l'heure l'avocat de la famille Jubilard en parlait, quand vous voyez l'affaire Daval, quand vous voyez que le mec, il vient aux obsèques, qui fait des marches blanches, qui va faire un marathon pour soutenir, pour. Ils sont dans leur truc jusqu'au bout. Quoi.
C'est jusqu'au bout.
Pire que ça, il va prendre un café chez son beau-père après la disparition. Il lui dit donne-moi un deuxième sucre.
C'est qu'ils n'ont pas le même mécanisme mental que nous. Moi, je me vois pas. Quand vous le voyez aux obsèques à pleurer sur les marches du perron, quand vous voyez le reportage qui est passé sur Canal, qui va au pas de famille à Noël, qui mange comme un goré, qui est avec toute la famille, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a tué sa femme et qui l'a enterré, et patati, mais c'est. C'est des gens qui ont pas. Ils ont une autre façon de penser que nous, donc forcément que nous.
Ça, c'est vrai que c'est fascinant, Maître Pégan, ces comportements, parce que on a du mal à comprendre comment ces gens-là peuvent ainsi dissimuler ce qu'ils ont fait, donner le change et même se mettre du côté des victimes en disant mais c'est ma femme a disparu, je vais vous aider à la trouver, etc.
Dans l'affaire Daval, moi j'ai trouvé ça, mais j'étais sur le cul.
Mais sur l'affaire Jubilard, c'est un peu la même chose parce que lui-même se porte partie civile. Le soir de la disparition de sa femme, il appelle les copines, il envoie un message sur un groupe WhatsApp en expliquant elle a disparu, vous avez des nouvelles, etc. Moi, je suis toujours fasciné par ça.
Moi aussi, je suis très fasciné, mais Jérôme, par exemple, regardez, Daval, il a quand même pris 25 ans de réclusion criminelle. Donc finalement, sa tactique, elle n'a pas bien prospéré. Mais c'est vrai que ça reste fascinant pour nous, pour le commun des mortels, parce qu'on est en train de se dire comment on peut rester dans la dénégation comme ça et dans le déni. On peut parler de déni traumatique.
C'est quoi? C'est le manque d'empathie? C'est des gens où il n'y a pas d'affect?
Je pense que c'est aussi une façon de se protéger eux-mêmes.
Il ne faut pas craquer.
Parce que sinon... tu emploies le mot à dessein, c'est-à-dire que sinon, s'ils craquent, en fait, c'est tout leur monde qui s'effondre.
Ouais.
Et donc, quand on voit les psychanalystes, les psychiatres qui viennent en parler sur les plateaux, ils le disent très clairement que c'est vraiment une question de protection. Parce que pour eux, sinon, c'est tout qui se casse la figure et leur entourage, le fait qu'on puisse les voir comme ils sont. Et donc, de s'enferrer, de rester dans le déni, pour eux, c'est quelque chose qui va les maintenir en vie. C'est horrible à dire, mais pour nous, parce qu'on a un raisonnement qui est normal.
Oui, mais donc, parce qu'on va pas faire de la victimologie de ces tueurs.
On explique les choses. En même temps, là, on est entre nous. Je veux dire, tout le reste, peu importe. Là, ce qui est vraiment... extrêmement beau pour la famille, quand je dis beau, vous ne le prenez pas mal, c'est que maintenant on sait où elle a été enterrée. Maintenant, avec toutes les expertises qui vont avoir lieu par rapport à la médecine légale, donc il y a les expertises anthropologiques pour savoir s'il y a eu des fractures avant, pendant ou après le décès. Il va y avoir aussi des expertises sur les dents, si on retrouve des dents, on va savoir si elle a été étouffée, ce genre de choses. Tout ça, je pense que pour la famille, c'est très important pour pouvoir initié un deuil qui n'a pas pu débuter
malheureusement avec toutes ces...
Et surtout peut-être aussi avec une date de mort, puisque je ne sais pas si sur la pierre tombale il y a une date qui avait été fixée.
Merci Jérôme d'avoir appelé au 32-16. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'affaire Jubilar. On vous a d'ailleurs posé une petite question sur le compte X des grandes gueules. Est-ce que selon vous il est sincère ou manipulateur? Il n'y a pas photo. Manipulateur à 93,3%.